Moi, j'ai pas besoin d'une maille au café oriental. J'ai réfléchi totalement cette
histoire. Moi, j'ai essayé de vous convaincre, on peut s'engager. Je pense qu'on peut, en combinant les deux bâtiments de l'esprit vivant, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Dans une lettre adressée le 19 mai dernier à tous les 10 premiers ministres, ministres d'État et ministres, le chef de gouvernement rappelle chacun d'eux à l'ordre. Le premier ministre, Matata Ponyo, reconnaît notamment que les ministres sont seuls responsables de leur département en vertu de l'article 93 de la Constitution, mais sont contraints de requérir l'autorisation préalable du premier ministre pour toute suspension préventive d'un cadre de commandement des services publics et l'organisation de leur intérim. Il estime que ceci éviterait que les articles du pouvoir disciplinaire donnent l'impression de règlement des comptes. Qu'en pensez-vous? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Notez que Julie Pézabongonda assure les standards de cette émission. Dieudonné Nyangasa est à la mise en onde, Piero Elamegi à la réalisation de ce programme coordonné présenté par J.R. Lungemboloabung sous la supervision de Martin Sebujagé. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungemboloabung.
Nous recevons Évariste, vous êtes à Bukavu. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs, Évariste.
Bonjour et merci à Radio Kaché, merci à tous les auditeurs qui nous suivent de partout à travers la République démocratique du Congo.
Quel est votre commentaire par rapport à cette position du Premier ministre, par rapport à des différentes suspensions qu'on enregistre, disons, dans les différents ministères?
Ce qui se passe aujourd'hui au Congo, ça simule juste à un tâtonnement. Parce que je me dis, depuis avant même que le gouvernement entre en fonction, chaque ministre reçoit la lettre du président de la République qui lui montre ce qu'il doit faire selon l'orientation de son gouvernement et la matière qui revient à sa charge. Constatez alors aujourd'hui que le premier ministre continue encore à rappeler chaque ministre à l'ordre, je me dis ça aux Congolais, d'avancer vite vers le projet qui est du développement intégral de notre pays. Vous observerez, monsieur J.R., que partout au Congo, tous les ministres aujourd'hui sont en train de vouloir reculer à l'endroit où ils auraient dû commencer. Et pourtant, s'ils pouvaient avancer, aujourd'hui le Congo ne serait plus encore en train, par exemple aujourd'hui ici à Bukavu, de traverser au Rwanda pour aller chercher des produits oubliés. Nous avons des terres qui sont fertiles, et ces terres fertiles sont inexploitées, je vous assure. Lorsque nous observons très bien ce qui se passe, vraiment, nous sommes en train de déplorer cette lenteur-là, et que le Premier ministre, nous lui demanderions seulement de constater tout ce ministre-là qui n'est pas en train de faire tout ce qu'il lui faut, qui n'est pas à la hauteur de sa mission, et qu'on ait demandé au président seulement de le remercier pour qu'il sorte, qu'il donne à quelqu'un de sa place, parce que il n'est pas concevable aujourd'hui que nous puissions constater des hommes qui ont fait l'université et qu'ils soient en train de faire seulement des hésitations chaque jour. C'est vraiment déplorable, cher.
Voilà. Est-ce que, Variste, vous pensez, comme les autres, qu'aujourd'hui, par rapport à cette affaire, on peut dire que la question relative à au conflit des compétences risque encore de se poser dans les jours à venir entre Premier ministre et ministre et tant d'autres animateurs des institutions?
Juste, oui, je suis d'accord. Ce conflit-là de compétences est très notoire. Parce que si nous ne faisons rien, surtout nos populations qui avons déjà aujourd'hui le devoir de remettre maintenant tout à l'ordre, y compris le chef de l'État, parce que nous sommes en train de constater que, au moment que lui puisse appeler le premier ministre à l'ordre afin de financer les élections, puissent les parlementaires à pouvoir harmoniser les lois qui sont nécessaires à l'organisation des élections et que lui-même nous dise réellement qu'il n'est pas prêt à pouvoir obéir à la Constitution, nous sommes en train d'assister à des hésitations. C'est ça le conflit de compétences. Et là, la population a la raison, maintenant, aujourd'hui, de prendre la relève et appeler tout le monde à l'ordre, parce que nous avons constaté aussi que la Cour constitutionnelle n'a pas été aussi prudente à pouvoir régulariser ce qu'il lui faut et qu'il mette tout le monde à l'ordre, sinon nous-mêmes, population. Nous sommes une jeunesse qui est déjà condamnée, nous sommes une jeunesse qui est sacrifiée. Nous allons nous mettre vraiment en ordre et rappeler tout le monde à l'ordre. C'est nous maintenant qui mettons fin. J'appelle tout Congolais qui nous suit maintenant à pouvoir prendre maintenant la Constitution en main et pouvoir se l'approprier pour que nous mettions maintenant en ordre vraiment. Sinon, ça ne va pas, ça ne va pas, je vous l'ai dit.
Merci beaucoup, Évariste, d'avoir appelé de Bukavu. On va prendre Alain Bolodjoie, qui est à Kinshasa, tout en rappelant qu'en l'espace de 10 ans, on a enregistré de cas de suspension préventive de cadres de commandement de services publics. Le dernier en date, c'est celui de la, disons, de la suspension du secrétaire général à l'urbanisme et habitat, Madame Bafalanga, par son ministre Omer Egwaké. Il y a quelques temps, nous avions assisté à un conflit entre le ministre de la Santé, Félix Kabangé, et son secrétaire général honoraire, Dr Lokadi, qui a coûté à ces derniers d'ailleurs également une suspension. La liste n'est pas exhaustive au regard donc de cas de suspension préventive qu'on a enregistré, et ces gens n'ont jamais été d'ailleurs réhabilités. À un certain moment, nous avons vu cette coalition des différents cadres de commandement au niveau des services publics qui se sont ligués dans une association pour, au fait, mener des actions au travers des pétitions et encore de correspondances qu'ils ont initiées au niveau du Parlement et au niveau de la présidence de la République, qui sont restées sans suite jusqu'à aujourd'hui. Alain Bolodjoie, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Radio Capi, bonjour à tout le monde.
Quel est votre avis, Alain Bolodjoie?
Bon, moi, personnellement, j'adhère à la vision ou à la démarche du Premier ministre, parce que je considère, de mon point de vue, qu'il y a trop de déviationnisme, surtout en ce qui concerne les suspensions. On doit reconnaître qu'il y a certaines fonctions au niveau de l'administration qui relèvent de la compétence soit du président de la République ou carrément du gouvernement. Je prends le cas du secrétaire général d'un ministère. Ce n'est pas une fonction négligeable, c'est-à-dire la deuxième personnalité du ministère. Et lorsqu'on veut, on veut les suspendre, en tout cas cela doit relever de la politique du gouvernement dans son ensemble. C'est-à-dire que le Premier ministre ou les autres ministres, le Conseil, la question doit être débattue au niveau du Conseil des ministres. Parce que cela a aussi une implication sur le plan politique. Et ça risquerait même d'entamer l'image des marques du gouvernement. Je ne conseillerais pas au ministre de prendre ce genre de décisions de manière unilatérale. Parce que lorsque vous prenez ce genre de décisions, sans pourtant consulter le gouvernement, alors que le Premier ministre est responsable devant le Parlement, le Premier ministre risquerait d'être convoqué par les parlementaires pour éclairer leurs lanternes, alors que lui-même n'est pas informé ou a reçu l'information par des voies non officielles. Et pourtant, si le ministre en question avait consulté les autres membres du gouvernement dans le conseil du ministre de gouvernement, eh bien, on allait dégager une vision commune, c'est-à-dire ça allait être partagé ou soutenu par tous les autres membres du gouvernement. Mais dès lors que cela s'est fait de manière unilatérale, eh bien, il met en mal même le fonctionnement du gouvernement. Il y a aussi un autre élément, c'est que le Premier ministre est le chef du gouvernement. C'est lui le chef d'orchestre, en fait. Tous les autres sont des musiciens. Et c'est lui maintenant qui doit donner les tons. C'est lui qui est responsable, conformément à la Constitution. C'est vrai que chaque ministère a une autonomie de gestion, mais la responsabilité politique de tout ce qui est fait au niveau du gouvernement incombe au Premier ministre. C'est-à-dire qu'il doit avoir une maîtrise plus large de ce qui s'est fait au niveau national, de ce qui s'est fait au niveau des ministères. C'est vrai que les ministres ont aussi la latitude de poser certains actes sans pourtant attendre le quitus ou l'avis préalable du Premier ministre. Tant que ça touche la politique économique ou la politique globale du gouvernement, en ce qui concerne la gestion des ambitions individuelles, eh bien, le Premier ministre devait en principe être informé ou carrément être consulté avant qu'il donne son avis. Et comme ça, la responsabilité incombérait à tous les gouvernements et non à un seul ministre. Et c'est un peu de vous imaginer aujourd'hui. Le ministre est la première personnalité d'un ministère, alors que le secrétariat général est l'organe technique. C'est-à-dire qu'il y a déjà un conflit d'intérêts entre le ministre et le secrétaire général. Si celui-ci peut le suspendre ou le révoquer à tout moment, c'est-à-dire même si le ministre n'a pas raison, eh ben il pourrait user de son pouvoir pour suspendre. S'il s'agissait peut-être d'un directeur, on pouvait comprendre, ou d'un chef de division, on pouvait comprendre. Mais pourtant, le gouvernement ou le ministre, ou le cabinet du ministre, c'est la porte d'entrée. Alors que tout ce qui est technique est conçu par le secrétariat général. Et si le ministre peut avoir la latitude de suspendre ou de révoquer à chaque instant son secrétaire, eh bien ça met même en mal le fonctionnement de tous les ministères. Parce que le secrétaire général qui est suspendu ou révoqué doit être nommé par le président de la République. Ce n'est pas le ministre qui va prendre un directeur pour jouer l'intérim. Ça doit être le président de la République qui doit prendre cette décision. Et pourtant, le ministre n'a pas consulté ni le premier ministre, encore moins le président. Donc, quelque part, il met en mal le fonctionnement de son ministère, tout simplement parce qu'il voulait résoudre un problème administratif par des voies politiques. Moi, personnellement, je n'encouragerais pas cette anarchie qui risquerait de mettre en mal le fonctionnement des ministères. J'ai effectué mon stage à deux reprises au niveau du ministère du plan, j'ai dit sincèrement, le secrétariat général, c'est la plaque tournante du ministère. Dès lors que ce secrétariat est mis en mal, son fonctionnement est mis en mal, en tout cas, tout le ministère ne pourra plus fonctionner, tout simplement parce qu'on n'a pas su gérer ses impulsions.
Oui, ben est-ce que vous pensez comme les autres, Alain, qu'aujourd'hui, c'est la politisation de l'administration qui fait défaut? Si on est arrivé à cette situation, en grande partie, cela serait dû à cette politisation de l'administration.
Effectivement, c'est une réalité, nous l'avons constaté. En ce qui concerne la nomination des secrétaires généraux, les directeurs, les chefs de division, les chefs de bureau, généralement, ce n'est pas recommandation, en fait. C'est-à-dire que ces gens viennent généralement de partis politiques. Quand même, qui peuvent être des fils maison, mais ils sont choisis parmi les partis politiques. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, même au niveau de ce secrétariat général, il y a des tendances, il y a des couleurs. C'est-à-dire, lorsqu'on prend un ministre qui n'est pas de leur obédience, eh bien, ce sont les secrétaires généraux qui mettent des bâtons sur le roue du ministre pour que celui-ci puisse échouer et que eux puissent avoir raison. Et pourtant, c'est inconcevable parce qu'aujourd'hui, nous sommes en face d'un gouvernement de coalition. Dans un gouvernement de coalition, c'est-à-dire qu'on doit avoir une vision unique, une vision commune. On doit se soutenir mutuellement pour atteindre les objectifs voulus par la famille politique ou l'organisation politique. Mais malheureusement, ça fait constat. Et moi, je voudrais demander aux autorités de la République s'ils peuvent déjà envisager à dépolitiser l'administration. Parce qu'en politisant l'administration, ça fragilise. On n'aura plus à parler de la méritocratie, des recommandations du clientélisme. Et pourtant, si vous prenez, je prends l'exemple du ministère du Plan, là où j'ai passé mes deux. C'est un ministère éminemment technique. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se constate? Lorsqu'il y a un ministre qui entre en fonction, ce ministre prend toutes les attributions du secrétariat général et le donne au projet. C'est-à-dire, comme lui sait qu'il a la maîtrise du projet, il prend tout ce qu'il y a comme option, tout ce qu'il y a comme décision qui devait être prise au niveau du secrétariat, on le transfère au projet, et comme ça, le secrétariat général est vidé de toute substance de compétences et des assurés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le ministère du Plan n'arrive plus à répondre aux besoins du développement, tout simplement parce que ce sont les projets qui détiennent le pouvoir et non le secrétariat. Nous voulons que chaque organe de l'État puisse jouer effectivement son rôle, mais dans le respect strict de lois et des règles.
Merci beaucoup.
Comme ça, on aura tout le moyen nécessaire pour jauger ou évaluer leur efficacité.
Merci beaucoup Alain, pour vous, dans l'esprit du constituant, bien qu'ayant reconnu une certaine autonomie au ministère, et en fait, il fixe cependant le principe de coordination du groupe, et dans cette approche groupale, selon vous, le Premier ministre qui assume la coordination et en est responsable devant le Parlement, quoi de plus normal qu'il valide toutes les actions au risque de laisser libre cours au déviationnisme et surtout à l'anarchie pour ne répondre que vos propres mots. Voilà, merci beaucoup Alain d'avoir appelé de Kinshasa. Félicien, vous êtes à Bukavu, bonjour.
Non, moi je suis à Kinshasa.
Pardon, Félicien, vous êtes à Kinshasa, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Alors bonjour Gérard, bonjour à tous les auditeurs de la DOCAP.
Quel est votre avis Félicien?
Alors moi je trouve que le Premier ministre a pleinement raison de mettre de l'ordre et des garde-fous dans ce domaine, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'abus. Mais la question qu'on devait se poser, c'est celle de savoir si réellement notre gouvernement fonctionne. Parce qu'il fonctionne normalement, je veux dire. Et quand on voit des directeurs généraux, des entreprises publiques ou des hauts fonctionnaires suspendus pour mauvaise gestion et qui, sous d'autres cieux, devraient se retrouver en prison, mais ici chez nous, ils continuent à bénéficier de tout leur salaire et avantages liés à leurs fonctions pendant des mois ou des années. Tout simplement parce qu'il n'y a personne qui se préoccupe de clôturer leurs dossiers. Pire encore, on trouve des services publics et des entreprises publiques abandonnées pendant des années entre les mains des intérimaires, parfois les plus médiocres et les plus incompétents, comme si on ne peut pas trouver mieux dans ce pays de plus ou moins 70 millions d'habitants. Et moi, je voudrais savoir si le ministre transmet réellement tous les dossiers au Premier ministre, et le Premier ministre est au courant de la situation, ou le président de la République au courant de la situation. Et parce que vous trouvez aussi encore dans les entreprises des instructions.
Oui, Félicien, est-ce que vous pensez que la motivation présentée par le ministre quand il veut suspendre un haut cadre du commandement dans les services de l'État, cette motivation doit normalement être faible, ou vous estimez comme les autres que dans bien des cas, ces genres de motivations sont biaisées et ce n'est pas la vérité?
Mais oui, mais il y a d'abord le problème de du respect de la voie hiérarchique. Donc, le premier ministre, le premier chef des hauts fonctionnaires ou d'un DG ou je ne sais pas qui, des hauts cadres de l'administration publique. Donc, c'est normal que lui, il prépare les dossiers et qu'il les transmette au premier ministre ou qu'on en discute. Mais il ne faut pas oublier qu'on ne doit pas aussi frustrer les ministres si réellement ce qu'ils présentent est juste et qu'on puisse, pour des raisons de clientélisme ou de tribalisme, donner raison à celui que le ministre accuse de ceci ou de cela. Moi, je pense qu'on doit respecter seulement la procédure et en la matière. Mais moi, je voulais parler de l'oubli ou je ne sais pas de quoi qui se passe dans l'administration publique, parce qu'on peut faire des rapports, parfois le ministre est même fatigué de faire des rapports, mais il ne reçoit pas gain de cause et il vit à couteau tiré avec son collaborateur pendant des années. Et ça fait que ce n'est pas bon pour la bonne marche de l'administration. Vous trouvez aussi, par exemple, des instructions ou des arrêtés qui datent de plusieurs années. Mais on a oublié qu'on devait, qu'est-ce que je vais dire, peut-être suspendre ça ou cela. Par exemple, le cas, il y a plus de huit ans, que le Premier ministre a pris la décision de ne pas engager dans les entreprises publiques ou de ne pas faire de mouvement du personnel. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais pensé à revoir cela. Mais il y a des gens qui vont en retraite, il y a des gens qui meurent, et il y a des jeunes gens qui chôment, on doit les engager, remplacer ces gens-là. Et puis en plus, des gens qui sont restés dans des postes pendant plus de 10 ans. Il y a cette monotonie-là et qui crée beaucoup d'abus. On ne sait pas les causes de l'arrêté ou de la décision du Premier ministre.
Oui,
donc, c'est que l'administration doit fonctionner normalement.
Oui, Félicien, comme vous l'avez dit, c'est vrai, vos prédécesseurs ont dit également la même chose. Aujourd'hui, il faut laisser l'administration fonctionner normalement tout en respectant la volonté du constituant et aussi la volonté de l'acteur d'autres lois organiques pouvant régler le secteur. Par exemple, avec cette loi numéro 0081/003 du 17 juillet 1981, portant statut du personnel de carrière des services publics de l'État, une loi qui, en fait, est sous examen d'ailleurs au Parlement pour modification, afin de pouvoir doter aujourd'hui d'une loi modifiée de statut du personnel des carrières des services publics. Alors aujourd'hui, Félicien, est-ce qu'on peut dire que au regard de cette situation, parce qu'on sait que dans bien des cas, la motivation de suspension préventive des cadres de commandement tourne souvent autour des cas d'insubordination, mis à part la mégestion.
Ah oui, mais l'insubordination, c'est toujours la mégestion. Moi, je sais, comment peut-on comprendre le qu'un DG ou un secrétaire général n'obéisse pas au ministre? Comment le ministre va-t-il fonctionner s'il a les proches collaborateurs qui ne lui obéissent pas? Comment va-t-il travailler pour atteindre les objectifs qui lui ont été assignés par le gouvernement?
Même en cas d'une décision qui n'entre pas dans l'intérêt commun, dans l'intérêt public. Je prends le cas, par exemple, ça me passe comme ça, je prends un exemple comme ça par la tête, un secrétaire général à l'urbanisme et habitat qui refuse des injonctions, par exemple, d'un ministre de pouvoir spolier ou de désaffecter de sites publics. Que lui, ministre, estime que ce sont des sites qui nécessitent une désaffectation, mais entre-temps, le secrétaire général qui est dans l'administration qui dit non, net, ça nous risque de tomber dans les cas d'expoliation.
Mais de toute façon, la loi dit déjà qu'on ne peut pas obéir à des ordres et qui sont contraires à la loi, des ordres qui sont mal donnés. Moi, ici, je parle de la procédure normale et des gens qui ne veulent pas obéir parce qu'il est lié au Premier ministre, au président de la République, je ne sais pas qui, et il trouve que le ministre est inférieur par rapport à lui, alors que lui n'est qu'un collaborateur du ministre. Là, c'est là que moi j'insiste. Mais quand on vous donne des injonctions ou des ordres contraires à la loi, vous n'êtes pas obligé d'obéir. Puis après tout, il y a d'autres instances qui devront examiner cette situation et voir que vous avez raison. Donc moi, je pense que l'administration, on devrait la laisser fonctionner. Et la politique ne va pas. Il ne faudra pas que aussi l'administration ne marche pas et que les sociétés ne marchent pas. Les gens souffrent parce qu'on a vu sous d'autres dossiers, par exemple en Belgique, il n'y avait pas le gouvernement, ça ne marchait pas du côté politique. Mais tout marchait bien. Mais ici, chez nous, les entreprises sont mortes. Les gens n'ont plus de salaire. Les gens sont dans la misère. Et tout le monde se bat pour la politique. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Mais les gens ne peuvent plus vivre en paix, manger et avoir de l'électricité parce que ça ne va pas en politique. Moi, je pense qu'il y a beaucoup à revoir de ce côté-là.
Merci beaucoup, Félicien, d'avoir appelé de Kinshasa. André, vous êtes à Kananga. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Quel est votre avis, André?
Bon, mon avis se situe sur deux aspects. J'ai bien suivi, monsieur Gère, les interventions de mes prédécesseurs. Moi, je situe ce problème au niveau de deux volets. Le premier volet, c'est sur le plan politique. Et le deuxième volet, c'est sur le plan administratif. Je voudrais cadrer un peu sur le plan politique. Actuellement, l'administration souffre beaucoup. Pourquoi? Parce que lorsque tous les ministres se retrouvent en conseil des ministres face à les premiers ministres, ils reçoivent des injonctions de plan d'action comment gérer les ministères sur le plan autonomie. Mais à ce niveau-là, les mêmes ministres reçoivent dans le même programme les injonctions qui viennent de leur parti politique. Mm-hmm. Vous voyez maintenant que lorsque le budget est alloué à un ministre d'exécuter un programme à l'intérêt de la population, mais le ministre qui est venu de son parti politique va dévier le programme du premier ministre pour exécuter le projet dans un milieu donné, il va suivre les injonctions de son président du parti politique. À ce niveau déjà là, le ministre dans son ressort reçoit déjà les instructions sur le plan politique qui pèsent sur sa tête. Et ça doit totalement à ce niveau déstabiliser le programme que le ministre doit faire dans son ressort. Mais aussi le plan administratif, le secrétaire général du ressort de ce ministère, qui, ayant vu toutes ces erreurs, il remonte à son chef qui est le ministre, il commence à le faire voir comment il faut faire fonctionner, parce que je sais très bien que les secrétaires généraux sont des gens qui sont nommés, qui ont suivi le cheminement de nomination en passant par attaché de bureau de premier, le chef de division, passer de directeur jusqu'à être secrétaire général. Celui-là, il est outil au niveau de l'administration publique. Mais le ministre qui vient n'a pas suivi ce cheminement, il a été nommé à cause de son parti politique, mais ne connaît pas le cheminement de l'administration. Il commence à prendre des injonctions politiques, il va l'imposer au secrétaire général qui est fortement outillé, qui voudrait faire marcher les choses dans les normes. Et dans ce cas-là, le secrétaire général, lorsqu'il essaie de porter des conseils pour que les choses puissent bien marcher, il devient directement un élément gênant et qui dévie les intérêts du parti politique, parce que lorsqu'on travaille dans un ministère, il faudrait tirer des dividendes pour alimenter le parti politique, prévoir ou préparer les élections qui viendront dans les jours à venir. Mais le secrétaire général, qui marche aussi sur le plan administratif, ne pourra pas accepter de pouvoir hypothéquer l'expérience aussi de l'administration pour recevoir les injonctions politiques qui sont biaisées pour pouvoir dévier le plan d'action du ministère qui ressort du secrétaire d'affaires. C'est très général, généraux ne gèrent pas, mais ils sont en train d'appliquer, d'orienter, ils sont comme premier conseil sur le plan administratif à côté de leur ministre. Mais les ministres, à leur niveau, ne suivent pas ça, mais ils suivent les injonctions de leur parti politique en même temps, les injonctions du premier ministre. Donc c'est avec ces deux volets qu'il faut qu'aujourd'hui l'administration souffre de carences politique et elle est déviée et c'est pourquoi un chevauchement et tout ne marche pas au niveau de l'administration publique, monsieur Gérard.
Est-ce que vous ne pensez pas que la décision du Premier ministre pourrait accentuer davantage des conflits qui sont parfois latents au niveau des ministères?
Oui, mais c'est ça, c'est gentil, mais il faut savoir maintenant que le ministre, il est au milieu, le secrétaire général, c'est un subalterne, au-dessus du ministre, il y a le Premier ministre, mais le Premier ministre connaît très bien que tous les ministres qui sont autour de lui viennent de leur parti politique, pas bien qu'ils soient autour de lui. Mais lui, il a un plan d'action, justement pour donner la crédibilité au niveau du gouvernement, au niveau du président de la République. Mais nos partis politiques actuellement, parce que c'est ça, et maintenant l'inconvénient, parce qu'on avoir une démocratie, bien sûr, mais la démocratie d'une part et d'autre n'est pas bonne, il y a aussi les inconvénients. Voyez maintenant que les ministres qui viennent de leur parti politique viennent avec leur plan d'action, mais le Premier ministre donne un plan d'action pour pouvoir marcher les choses, mais les ministres au milieu, ils souffrent, mais le secrétaire général aussi souffre. Moi, je crois que c'est à ce niveau là qu'on puisse faire ce qu'on appelle la mise à niveau et des partis politiques et des ministres qui seront autour du Premier ministre, et pour que le secrétaire général aussi sache bien travailler, parce qu'il y a un problème de chevauchement à ce niveau.
Oui, André, mais il y a certaines personnes qui estiment également qu'il y a déjà des cas de suspension préventive des cadres de commandement des services publics. Il va falloir pour le Premier ministre de commencer d'abord à suivre au cas par cas et soit lever la décision, la mesure prise par certains ministres au lieu de d'interdire carrément et laisser ces affaires de manière pendante.
Oui, justement, mais le problème, c'est ce comme je vous ai parlé, monsieur Gérard, le problème de mise à niveau. C'est que je sais que si vous essayez de voir l'exemple de notre pays, actuellement, les ministères, ils ont plusieurs domaines d'intervention, ils ont plusieurs orientations. Vous allez voir, dernièrement, si vous avez semblé, on a parlé de la fonction publique standard. Heureusement que la fonction publique standard avait un cadre et organigramme qu'il avait déjà publié dans les provinces. Mais quand c'est venu, ça a essayé de bouleverser le moral de tous les fonctionnaires de l'État. Mais avec déjà à ce niveau-là, les gens ne sauront plus bien travailler, parce que en suivant le statut de carrière publique de l'État, avec le modèle actuel qu'on voulait lancer la fonction publique standard, c'est deux choses différentes. On souffrait comment remettre les gens en retraite, mais ça n'a pas tenu, jusqu'à tel point qu'il y a un étouffement. Il y a le problème de nouvelles unités qu'on recrute par-ci, par-là, on ne sait plus par où les mettre, mais qui sont toujours en fonction. Mais à ce niveau-là, chaque ministère doit faire son plan d'action. Au niveau de Kinshasa, le Premier ministre doit faire la mise à niveau de plan d'action de chaque ministère, et ce plan d'action doit être restitué dans les provinces, même au niveau du gouvernement provincial.
Voilà, merci beaucoup André d'avoir appelé de Kananga 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Vous voulez dire une fois à ceux qui vous sont chers, quel espace vous est réservé? Samedi, dimanche, 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Kapi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicace@radiookapi.net et demandez une chanson, et nous nous ferons le plaisir de vous faire plaisir. Thank you.
aux auditeurs.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Sylvain Katala de Kananga, vous nous avez écrit, merci. Vous avez dit, c'est un peu dégoûtant dans le sens que le gouvernement dont il est question a duré et maintenant est presque au bout. Si nous pouvons réfléchir bien, donc depuis tout ce temps passé, il n'y avait pas eu ces réactions pour lesquelles cette mesure est levée. S'il en était ainsi, pourquoi lui, étant chef du gouvernement, ne prendrait-elle pas vite sa responsabilité? En un mot, le bon goût du bonbon vient juste quand ces bonbons s'épuisent déjà. De mon avis, que ces ministres malhonnêtes finissent ensemble le dernier mandat. Christevi Kabongo Mukuna Mungu, impossible, il a totalement tort relativement au principe de la hiérarchie et du droit administratif dans la décentralisation. Les ministres ont cette prérogative de suspendre. Maître Likonda de Kinshasa, qui a réglé les comptes à qui et pourquoi doit-on rétrécir inconstitutionnellement le pouvoir des ministres? Non, on doit plutôt éviter de couvrir certaines têtes qui manipulent l'argent de l'État à leur gré. Professeur Ignace, vous êtes en Colombie, merci de nous avoir rejoint. Bonjour et bienvenue.
Bonjour JR, merci beaucoup pour la parole. Je crois que c'est un problème très pertinent, mais qui suscite déjà la problématique des choix des animateurs de nos institutions et aussi leur encadrement. Je pense que quand on nomme les ministres, ça ne suffit pas. Il ne faut pas penser que ce sont des anges. Quand ils sont à la tête, ils savent déjà tout ce qu'ils peuvent faire. Je crois qu'on devrait continuer à les encadrer. Parce que ici, il y a aussi une petite question qui vient à mon esprit. C'est celle de savoir, est-ce que ce sont les ministères où se trouvent des anciens fonctionnaires, des anciens secrétaires généraux, ou c'est les ministères où il y a de nouveaux secrétaires? Parce qu'il y a toujours un complexe. Les secrétaires généraux, les anciens fonctionnaires, quand on leur donne un nouveau ministre, ils sentent qu'eux savent, celui-là c'est un nouveau, lui aussi qui veut montrer qu'il est chef, il ne va pas recevoir des injonctions, des conseils des autres, ça crée des moments de crise comme cela, ça c'est un aspect. Mais je voudrais beaucoup plus considérer une approche structuro-fonctionnelle. De l'autre côté, c'est que le gouvernement ne fonctionne pas en désordre. C'est une structure dont les entités ont chacune une fonction, telle que lorsque à un niveau, à un ministère, il y a des problèmes de fonctionnement et un dysfonctionnement, cela va retomber sur le fonctionnement de tout le gouvernement et c'est lui qui doit répondre, c'est le chef du gouvernement. Donc à ce niveau-là, le premier ministre a tout à fait raison d'intervenir chaque fois qu'il sent qu'à gauche ou à droite, il y a des cas de récidive ou des abus. N'oublions pas que le gouvernement, en tant que structure, fonctionne sur base des textes. Il est curieux de constater que certains animateurs, soit ils ne savent pas exactement ce qu'ils disent le texte, ou alors ils en abusent, considérant l'aspect du critère de choix, le politique faisant l'aspect politique, l'homme politique ayant une certaine prépondérance sur la dissuasion telle qu'on le voit ici, alors que ce sont deux réalités différentes. Moi, je pense que au lieu de considérer la troïka de chaque lundi telle que le Premier ministre l'organise avec les ministres et qui s'appuie beaucoup plus sur les paramètres
macroéconomiques, j'aurais
aimé que ce soit une opportunité pour le Premier ministre de faire ce tour de rôle pour s'imprégner des réalités spécifiques de fonctionnement et des difficultés donc de chaque secteur de son gouvernement. À ce moment-là, il éviterait de se faire présenter des rapports de foi tendancieux qui, comme on l'a dit tout à l'heure, sont présentés pour salir l'image des autres fonctionnaires sous ordre de certains ministres. Voilà à peu près ce que moi je suis. Donc, c'est une structure, c'est le Premier ministre qui est à la tête, mais à chaque structure, il y a, en tant que grande structure, il y a des sous-structures, des ministères qui doivent normalement fonctionner, et quand ça ne va pas, c'est tout le gouvernement qui est interpellé, on jette le discrédit sur le Premier ministre, il a tout à fait raison d'intervenir quand il y a des abus pour que la structure soit costaude et qu'elle puisse amener à bon port les objectifs attendus par la société.
Merci beaucoup, professeur Ignace, d'avoir appelé de Kolwezi. Kungu, vous êtes à Libengue, bonjour et bienvenue.
Bonjour, mon frère Agir. Moi, Oui, ma conclusion c'est quoi? Là, il se pose maintenant un problème. Le problème c'est lequel? Les comptes de savoir qui sont les hommes qui nous dirigent. Parce que sur d'autres cieux, on ne s'improvise jamais ministre. Et là, ça pose la question de ceux qui sont là, qui tiennent les portefeuilles et les différents départements qui règlent la vie nationale. Vous voyez un peu comment quelqu'un qui vient, qui n'a jamais été quelque part, parce qu'il a un militantisme qu'on lui reconnaît au sein de son parti politique, on le prend, on le booste, on le bombarde directement au poste de ministre. Et quand il vient, il a aussi ses galons, et qu'est-ce qu'il va vouloir? Il va vouloir régler les comptes avec celui qui a gravi les échelons de l'administration. Vous voyez un peu, si on faisait en sorte que les ministres soient des gens qui connaissent un peu de la matière en ce qui concerne les départements, on va les affecter, si vous voulez, le ministère, ce serait une bonne chose. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas ici chez nous. Vous voyez? Donc, du jour au lendemain, je peux rester chez moi à la maison, sans jamais été dans l'administration quelconque, sans jamais été quelque part. On me bombarde comme ministre, et je quitte même mon village, je quitte un coin quelconque de la RDC, soit l'extérieur du pays, je viens pour occuper ce ministère-là. Alors, je viens avec tous ces ailes-là, sans connaître c'est quoi ce ministère, quel est son rôle, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je puis apporter. Est-ce qu'on a suivi mon cursus universitaire? Est-ce qu'on a suivi tout ce que je puis donner comme homme d'État, je dis bien homme d'État, dans ce ministère-là, pour l'avancement du Congo? Voilà, c'est ça le problème. Et le Premier ministre, il a pris tous les temps. Moi, je me dis, mais pourquoi il est aujourd'hui là? Ça fait 4 ans. 4 ans, c'est une première fois que le Premier ministre puisse faire des remarques pareilles. Alors, c'est que vraiment, je pense qu'il ne contrôle pas. Je vais vous donner un exemple. À un certain moment, nous avons vu des conflits entre le Premier ministre, donc une contradiction plutôt, entre le Premier ministre et un vice-Premier ministre. Et il s'est dit, bon voilà, nous devons organiser les élections, il faut telle façon. Le Premier ministre passe là-bas devant l'Assemblée, il dit qu'il n'y a pas l'argent pour organiser ça. Or, ce sont des matières qui devraient être traitées au sein du gouvernement. Vous voyez un peu? Et c'est un peu dans cette confusion-là. Voilà, c'est un peu ça ma petite confusion.
Alors, donc, vous partagez comme les autres que, aujourd'hui, le Premier ministre a raison, quoique cette décision tombe avec quelques temps de retard, que la responsabilité politique incombe d'abord à lui, malgré que les autres ministres, disons, jouissent de ses prérogatives à leur conférer par l'article 93 de la Constitution. C'est-à-dire qu'ils sont responsables de leur ministère.
Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a l'échec, on ne va pas dire que c'est l'échec d'un tel ministre dans tel gouvernement. On dira que c'est l'échec du gouvernement Matata. Donc, il n'y a pas à légitimer. Donc, le Premier ministre devrait vraiment saisir sérieusement le juste faire des rapports à qui des droits, c'est-à-dire au chef de l'État, si ça ne va pas, dire que voilà, tel ministre, au regard de ça, j'ai trouvé qu'il peut plus faire. Voilà un peu ce que nous vivons. Ça, on voit sur les réseaux sociaux, un ministre, un vice-ministre, qu'on va voir les images, je ne voudrais pas revenir sur ça. Vous voyez un peu,
c'est pas
des gens immoraux de quelque soit. On ne sait pas les choisir. Ils sont pris comme ça, on les met là-bas, sans au préalable les connaître, qui sont ces gens-là qui doivent être là à tel endroit. Et ils ignorent les fonctions qu'on leur attribue. C'est un peu ça là.
Merci.
Là, c'est comme s'ils étaient des libres citoyens.
Merci beaucoup, voilà. Kourou, d'avoir appelé Denis Bengué. Professeur Robert, vous êtes à l'UNIKIN, ici à Kinshasa. Bonjour et merci de nous rejoindre.
Bonjour, Gérard.
Quelle est votre contribution dans cette émission? Après avoir écouté les uns les autres, on se rend compte que d'aucuns estiment que, et c'est vrai, la responsabilité politique elle tombe au Premier ministre. Je crois que les ministres jouissent également de ces prérogatives leur conférées par l'article 93 de la Constitution qui stipule qu'ils sont seuls responsables de leur département. Alors, un peu plus loin également, d'autres disent que, bon voilà, le Premier ministre n'a pas ce droit, ça risque encore de créer d'autres conflits ou d'alimenter d'autres conflits latents au niveau des ministères.
Merci pour cette confiance que vous avez à mon égard. Je vais essayer d'expliquer le schéma.
quand il y a le Premier ministre, il est le responsable du gouvernement, il est le premier d'entre les semblables, et le problème qui concerne la préséance dans l'organisation, c'est lui. Mais la collaboration doit exister et chaque ministre, dans sa sphère de sa compétence, doit agir en conformité à la... tout un règlement intérieur qui concerne le gouvernement. Dans ce règlement, il y a la préséance, bien sûr, qui vient au premier ministre, mais chaque ministre doit, lorsqu'ils sont en conseil, par exemple, exposer ce problème, le soumettre au conseil des ministres, et le conseil des ministres délibère et prend la dernière décision qui convient. Mais il se fait que souvent, lorsqu'il y a cette rencontre de Troïka, par exemple, mais c'est le Premier ministre qui s'impose, qui dit ce qu'il pense, et il s'impose sur les autres de manière que le ministre devienne tout simplement des observateurs, des exécutants. Ils n'ont aucun mot à dire. C'est aussi une sorte de dictature. Dans la mesure où chaque ministre n'est pas autorisé d'engager, par exemple, son ministère, il doit se référer d'abord au Premier ministre. Mais je pense que ça ne peut pas bien marcher de cette manière-là. Je suis d'accord avec les autres que lorsque la fonction administrative exige une certaine hiérarchie, oui, dans l'hiérarchisation, il faut souvent faire en sorte que le subalterne présente son rapport. Mais dans son rapport, il ne doit pas donner des injonctions. Il doit tout simplement s'arrêter à proposer. Alors, quand les propositions sont là, ensemble, on débat et on tire une conclusion commune qui arrange tout le monde. Voilà un peu comment devaient fonctionner les choses. Mais ce que je constate...
Malheureusement, c'est le contraire. Merci beaucoup, professeur Robert, d'avoir appelé des Lunikin. Nous rendons tout de suite à Maï Ndombe pour retrouver Kapanda. Kapanda, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quel est votre avis?
J'ai mon avis par rapport à ça, mon intervenant qui venait de passer tout à l'heure là, je l'ai très bien suivi, par rapport au ministère de l'EPSP. Au ministère de l'EPSP, nous constatons comme si notre ministère, parce que je travaille en collaboration avec les gens de l'EPSP, notre ministère est pris en otage par la politique. Pourquoi je dis ça? Parce que, par exemple, les sous-proverbes, leur mutation ou leur nomination. Leur mutation ou leur nomination ne viennent pas de l'EPSP. Les propositions ne sont pas venues de l'EPSP. Moi, je pense que si on tient compte de toutes les nominations qui sont proposées par l'EPSP, nous n'allons pas connaître ce que nous connaissons aujourd'hui dans le Maï Ndombe. Ici, nous venons de perdre deux sous-proverbes dans la province éducationnelle du Maï Ndombe. Je tiens à vous dire que les deux sous-proverbes doivent être remplacés par ceux qui connaissent le travail plus que eux. Parce que ceux-là ont présenté de bons travaux sur le terrain. Ils ont été appréciés à la promotion provinciale qui s'était tenue à Inongo. Mais nous sommes surpris de voir que les deux sous-proverbes, celui de Kiri et celui de Inongo 3, ils sont remplacés pour... d'autres personnes qui ne maîtrisent pas ce domaine de l'éducation.
Voilà, mais c'est Kapanda, je crois que nous n'allons pas tomber dans le jugement de valeur. On ne sait pas quelles ont été les motivations du choix de ces deux qui ont remplacé ceux qui ont disparu. Mais on sait tout de même que le ministère de l'enseignement primaire et secondaire, c'est parmi les ministères qui, en fait, ont connu en tout cas de moins en moins des conflits entre le ministère, les ministres et le secrétaire général. Je pense à depuis la nuit des temps avec le secrétaire général Lukubama, en passant par Djamba qui est de côté aujourd'hui. Donc ils sont tous, et je crois que la collaboration a toujours été de taille. Ici, au-delà de cela, on peut encore citer les cas des inspecteurs. Gaël Lotuli a fait pendant longtemps, il a travaillé en bonne collaboration. Aujourd'hui, même, c'est lui qui l'a remplacé. Donc il y a quand même des ministères aujourd'hui qui font exception dans la gestion de l'administration et des problèmes où on sent quand même qu'il y a une certaine indépendance. Nous avons vu les jours où nous avons fait les débats ici dans cette émission, dans cette tribune des paroles aux auditeurs, le jour où un député est venu affirmer qu'il y avait une opération de collecte de 1000 francs pour le compte des CNI. Alors nous avons fait appel au ministre, le ministre a demandé qu'on puisse retirer cette initiative, d'autant plus qu'il n'a pas été informé, parce qu'il revient à lui d'avoir la gestion quotidienne du ministère. Donc je crois que en ce moment, nous avons voulu quand même apporter cette précision par rapport au ministère de l'enseignement. Mais c'est vrai que le débat aujourd'hui, nous disons, par rapport à l'article 93, s'il est mal interprété, ça risque d'être encore sur les conflits qui sont latents dans certains ministères.
Justement, c'est pourquoi j'interviens là-dessus, c'est parce que nous voyons que on ne tient pas compte de tout cela. J'aurais voulu donner ce conseil à ce ministère-là. Si on reçoit un dossier, par exemple, d'un responsable cadre de cette administration-là, il faut qu'on puisse analyser ça, qu'on puisse connaître le bien fondé du départ de celui-là. Sinon, on risque de faire partir un innocent. Ça, c'est d'abord un. On risque aussi de faire partir quelqu'un qui sait maîtriser bien son domaine. C'est ça que nous implorons, mon frère. Donc, nous sommes là pour que le premier, le numéro un de l'administration et au niveau de l'EPSP puisse connaître s'il y a un dossier, parce que nous avons connu des cas. Nous connaissons aussi plusieurs cas que les députés nationaux sont en train de défiler au couloir du ministère. Donc ça nous révolte et nous demandons à ce que les responsables de ces ministères-là puissent bien analyser les dossiers avant que les dossiers passent outre. Sinon, beaucoup de personnes seront sanctionnées pour des faits qu'elles ne connaissent pas. Mmh. Et j'aurais voulu que s'il y a une accusation, par exemple, autour d'un chef de la sous-division ou quelqu'un d'autre dans les différents ministères, qu'on puisse d'abord dire que bon voilà, c'est une information que nous avons reçue, voyons voir, et nous avons nos services techniques, et nos services techniques vont chercher à connaître la situation et nous vous ferons notre rapport, notre dernier point de vue.
Alors,
nous sommes de l'enseignement.
Oui, M. Kapanda, parce que vous êtes de l'administration également, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ceci relance les débats sur l'exercice du pouvoir disciplinaire? Comment ça se passe au niveau de l'administration? Est-ce qu'il y a une commission disciplinaire qui entend parfois que PV les concernés, qu'il s'agisse du ministre ou encore du secrétaire général ou encore autre cadre de commandement dans l'administration publique?
Pour le cas présent, donc en principe, en ce qui concerne les dossiers disciplinaires, si l'autorité reçoit un rapport en ce qui concerne son agent, il doit d'abord diligenter une enquête. Il doit d'abord diligenter une enquête avant de prendre une mesure, puisqu'on risque de connaître d'abord cette aberration-là, donc on sanctionne et après on vient voir que la personne est innocente. Et là,
voilà.
C'est ça que nous
disons. Malheureusement, plusieurs sanctions, en tout cas on n'est jamais revenu sur ces sanctions, on n'a jamais levé certaines mesures, on sait tout de même que aujourd'hui, même l'exercice de l'intérim pose l'organisation de l'intérim laisse encore à désirer. Il y a beaucoup de complexité dans cette affaire. On ne sait pas, celui qui remplace, il remplace pour combien de temps, et pour qu'on lève la mesure même de suspension, cela peut prendre même des années, contrairement aux dispositions de loi organique. Merci beaucoup, Kapanda, d'avoir appelé de Maïndombe. Prosper, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Merci, c'est moi qui vous remercie.
Prosper, vous êtes avec nous à Kinshasa. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour, Gilles.
Quel est votre avis?
Merci de m'avoir donné la parole. Bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs. Je voudrais qu'on aille à la recherche des causes de ces conflits latents entre la primature et les ministères inférieurs, si vous voulez, sectoriels. Et moi, je crois que ce qui arrive, c'est souvent la conséquence d'une philosophie gouvernementale, d'une politique gouvernementale, d'une idéologie des partis au pouvoir. Chaque fois qu'un ministre ou même un responsable d'entreprise publique agit, il remercie le chef de l'État, il remercie le premier ministre. Cela altère totalement le sens des responsabilités. Hier, par exemple, j'ai suivi que la SNCC a acheté de nouvelles locomotives ou de nouveaux trains, et je ne comprenais pas pourquoi est-ce que tous ces responsables de cette compagnie se mettaient à un remerciement religieux du chef de l'État. Ça devait être le contraire, parce que le sens des responsabilités exige que l'on remercie celui qu'on a placé à la tête de cette entité, remercier son leadership, l'encourager pour qu'il continue à faire mieux. Mais ici, chez nous, tous les échelons inférieurs, lorsqu'ils travaillent et qu'ils posent des actes et qu'ils font avancer leurs échelons inférieurs, ils remercient le chef de l'État, ils remercient le premier ministre, comme pour dire que ce n'est pas eux qui travaillent. C'est celui-là qui est au top qui travaille. Alors, c'est normal que lorsque les conflits arrivent ou des responsabilités arrivent, qu'on ne voit pas tous ces autres-là, qu'on voit le seul qui est au top. Et moi, je voudrais justement proposer que cette idéologie gouvernementale soit supprimée pour exciter davantage le sens des responsabilités, pour que ceux qui sont commis à des responsabilités sectorielles, ceux-là ne pensent pas qu'ils ne peuvent rien faire si l'autorité supérieure ne leur dit pas de faire quoi que ce soit. Pour moi, ce serait ça, en fait, une des causes de ces conflits qui existent souvent. Ça, c'est ma contribution.
Merci beaucoup, Prosper. Pacifique, vous êtes à l'Ombashi, bonjour, et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bien, bonjour, JR. Bonjour à tous les auditeurs de la radio de la paix qui sont en train de suivre en ce moment. JR, vous devez comprendre que des signes comme ça montrent clairement que les choses ne marchent pas et le pays va tout droit dans les murs. Le tout premier indicateur dans toute administration du monde entier, je crois que vous n'allez pas me contredire, c'est l'organisation. Il y a aujourd'hui des entretiens, des coquillages dans la gestion des ministères, dans la gestion du pays, tout ça, parce qu'on ne comprend pas exactement c'est quoi. Je me pose une question moi-même. Qui est ce ministre ou ce secrétaire général qui a été nommé, tout ça, pour une responsabilité quelconque, qui ne connaît pas son job de description de tout un chacun doit être clair, même pour le premier ministre, qui est le chef du gouvernement, ça doit être très clair. Et là, ça ne peut pas permettre à quelqu'un de pouvoir enquêter le poste de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, cher, je vais vous dire une chose, peut-être que vous ne connaissez pas, vous ne comprenez pas, que le premier ministre de notre pays n'a pas tout le contrôle dans tous les ministères. Aujourd'hui, il y a des ministres qui l'obéissent, il y a des ministres qui ne l'obéissent pas, qui disent que nous passons directement voir le chef de l'État, et ça se passe comme ça. Et vous voyez déjà, ça crée déjà un climat d'animosité, ça crée déjà un climat, un mauvais climat, et ça ne peut pas permettre à l'État de pouvoir marcher et correctement. Pourquoi ? Tout ceci se résume à terme de la gestion d'argent du contribuable congolais qui est dilapidé. Celui-ci va dire non, moi j'obéis à mon parti qui m'a responsabilisé. Mais si c'est une question d'accord, bon, moi je suis pris, je dois d'abord faire la volonté de mon parti politique. Les chefs du gouvernement aussi qui disent au premier ministre, non, quand je serai interpellé au Parlement, ça sera moi, ça ne sera pas vous, je dois frapper quelque chose, je dois faire tout ceci, cela. Malgré tout cela, il y a aussi des choses qui entrent en ligne de compte. Tout ce que soit, le parti politique dit tout simplement que vous n'avez qu'à nous obéir d'abord, nous qui avons avancé votre nom là-bas. Alors, dans des conditions comme ça, vous pensez que le pays va aller dans le sens du développement? Je ne pense pas. Je ne crois pas. Alors, nous demandons au premier ministre de jouer amplement son rôle en tant que le chef du gouvernement. Nous demandons également aux ministres de jouer leurs responsabilités, de jouer pleinement leurs responsabilités. Au secrétaire général, que tout le monde regarde un peu son job description, c'est tout, ça s'arrête là. Les partis politiques se veulent, ils viennent après, vous êtes au service de l'État. nous qui sommes contribuables, quand vous dilapidez, vous êtes en train de dilapider notre argent. Vous pensez que nous sommes contents, nous ne sommes pas contents. Tout ça, ça se résume dans ça. Je vais vous dire une chose, Gérard. Aujourd'hui, au moment où nous parlons ici, le Premier ministre n'a pas le contrôle du ministère économique, n'a pas de contrôle. Et ça serait souhaitable qu'il y ait un expert dans l'administration en cette matière-là pour pouvoir nous édifier tous ensemble afin que nous puissions comprendre une chose.
Mm-hmm.
Si chaque ministre doit dire non, c'est mon ministère, je dois agir comme ça.
Quand vous nous présentez un conflit latent entre le ministère de mines et la primature, c'est conflit. Bon, je ne sais pas, vos propos reposent sur quoi? Ça pousse sur quoi, concrètement?
Justement, c'est l'incompréhension. C'est-à-dire qu'il y a le ministre, par exemple, des mines, qui dit je ne rendrai que mes comptes au chef de l'État.
Il a dit où officiellement ou peut-être en privé
Non, mais ce sont des exemples que nous sommes en train de vous donner, que vous puissiez comprendre tout cela, et que ça crée des animosités.
Oui, parce que nous ne voulons pas tabler sur des rumeurs, quoi, en fait. En tant que journaliste, nous traitons les faits, l'actualité, hein, c'est ce qui est mis sur la place publique, en fait.
Allez faire des investigations, vous allez vous rendre compte. Allez faire des investigations. C'est une matière qu'on vous donne en tant que journaliste.
Merci beaucoup au Pacifique d'avoir appelé de Lubumbashi et surtout d'avoir contribué dans cette émission. Joséphine, vous êtes à Boston. Bonjour et bienvenue. La parole aux auditeurs.
Bonjour Radio Okapi. Merci de m'avoir passé la parole. Vous savez, le Congo, les Congolais, ce ne sont pas des gens dupes. Par moment, quand on traite des sujets, on les traite en fonction de ce qui se passe. Tout le monde observe ce qui se passe au Congo. Je fais partie de l'idée que le président avait un programme de démarrage du développement du Congo. Je me rappelle très bien, l'ancien président de l'Assemblée, avait ça, M. Tamere. On nous a parlé de 5 chantiers, on nous a parlé de création de TVG,
c'est
à grande vitesse. On nous a parlé de routes de 2000 ou de 20 000 kilomètres de route. On nous a parlé de tout ça. Mais le problème, qui contrôle qui au Congo? Qui contrôle le président? Qui contrôle le premier ministre? Qui contrôle les ministres? C'est ça le grand problème au Congo. J'ai toujours dit qu'il faudrait qu'il y ait
Madame Joséphine, on va vous répondre juste après le bulletin d'information, tout en rappelant à nos auditeurs qu'ils peuvent également participer à ce débat en composant les 081-890-6315. Je vous encore remercie de votre fidélité à Radio Okapi. Nous poursuivons avec vous, parole aux auditeurs, ce cadre d'échange citoyen, nous entamons d'ailleurs le dernier quart d'heure de cette émission. Avec vous, Joséphine, avant le bulletin d'information, vous parliez de ce plan Marshall proposé par Vital Kamerhe alors qu'il était encore le président de l'Assemblée nationale. Joséphine, vous êtes encore avec nous? Oui, Madame Joséphine, vous êtes avec nous en ligne. Voilà, dommage, on a perdu Madame Joséphine qui parlait avant le bulletin de ce plan Marshall proposé par Vital Kamerhe, alors président de l'Assemblée nationale. Guy, vous êtes à Mbandaka. Guy, vous êtes avec nous. Bonjour et bienvenue. La parole aux auditeurs.
Bonjour, Monsieur Gir.
Voilà, vous avez suivi vos prédécesseurs. Quel est votre avis par rapport à cette thématique?
Oui, merci, Monsieur Gir. Juste, je voulais un peu, parce que je me suis référé au recueil des textes légaux et réglementaires sur la décentralisation en République démocratique du Congo. Monsieur Gir, si vous lisez l'article 193 elle dit ceci, l'administration publique est apolitique, neutre, impartial. Nul ne peut la détourner à des fins personnelles ou partisanes. Elle comprend les fonctions publiques ainsi que tous les organes et ses services assimilés. D'où vient tout ce conflit nécessaire? Ici au Congo, nous avons un problème. Le problème, c'est quoi? C'est parce qu'on veut tout politiser. Mais on dit ici que l'administration publique est apolitique. Prenons par exemple le cas du ministre des Transports qui a été suspendu par le premier ministre Mobutu. Et c'est le ministre de la Portefeuille qui vient pour la réhabiliter. C'est incompétence, c'est inconcevable, M. Zier. Ça, c'est la première des choses. M. Zier, si nous voulons construire un État démocratique, la première des choses, vous devez avoir le sens d'honneur, l'amour, le respect de la différence, l'amour de l'adversaire politique. C'est ça ce qui est important aujourd'hui. Vous avez le ministre qui vient avec toute une masse de gens derrière pour composer un cabinet politique. Et aujourd'hui, il se pose maintenant un problème. Le secrétariat général souffre pourquoi? Le secrétariat général, ce sont des organes techniques qui sont tout à fait apolitiques, monsieur Gilles. Aujourd'hui, si le ministre ne venait pas travailler ensemble avec le secrétariat général, c'est tout simplement parce qu'il y a un problème de respect des attributions, monsieur Gilles. Il y a un problème de bonne gouvernance. Il y a un problème aussi, M. Gilles, de respect des textes légaux et réglementaires. Il y a aussi un problème de vulgarisation des textes. C'est ça ce que le gouvernement doit faire, M. Gilles.
Voilà, merci beaucoup, Guy, d'avoir appelé de Mbandaka. On va prendre Maître Trésor qui est à Kinshasa. Maître Trésor, bonjour.
Bonjour, Julien.
Alors, vous avez posé la question à travers votre message que vous avez déposé sur notre page Facebook. Qui a réglé les comptes à qui?
Oui, puisque dans la lettre du Premier ministre, il a fait allusion à un certain règlement des comptes. C'est pourquoi moi, je me suis demandé, parmi les ministres, qui a réglé les comptes à qui? Le Premier ministre n'a pas éclairé la lanterne de ses collaborateurs. Ministre, mais aujourd'hui, quand on doit adresser une telle lettre à des ministres, sans pouvoir motiver la décision de manière à ce que le peuple, la population ne soit pas inquiétée, ça pousse à des inquiétudes, ça crée des frustrations. Et moi,
Maître Trésor, je vous coupe tout de suite. Si vous lisez l'entièreté de cette lettre, vous comprendrez que elle a été motivée quand même, la décision du Premier ministre, pour éviter, en tout cas selon ses propos, si je la réponds quand même ses propos, c'est pour éviter que l'exercice du pouvoir disciplinaire donne l'impression de règlement des comptes. Il parlait dans ses multiples motivations de cette décision, la suspension, on a enregistré plusieurs fois des cas de suspension préventive des cadres de commandement de services publics, sans pour autant obtenir l'autorisation ou l'aval du Premier ministre.
Oui, apparemment les prémices ne sont pas définies dans ce syllogisme-là. Le Premier ministre a simplement conclu sans définir les prémices, la cause, la raison qui a motivé sa décision. Moi, je pense que le professeur Robert a bien dit les choses. Ça devait passer par le conseil des ministres, soumettre les problèmes, prendre les derniers cas en date, débattre sur ces cas-là et voir à quelle mesure c'est décidé.
Oui, mais au cours de cette émission, j'ai eu quand même personnellement évoqué le dernier cas en date, celui de la suspension de, du secrétaire général à l'urbanisme et habitat, madame Bafalanga, par son ministre Omer Eguaké. Et bien, un peu plus avant, il y a eu des cas comme celui du secrétaire général honoraire, docteur Locadi, secrétaire général à la santé, qui a connu pratiquement le même discuté, qui était en froid avec son ministre de la santé, Félix Kabangé, et c'est là coûté également cette suspension préventive qu'on n'a jamais levé d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, avant qu'il devienne vice-gouverneur de Saint-Courou aujourd'hui.
Bien. Ça, c'est selon vous les derniers cas. Mais ce qui s'est passé au ministère des Finances, on n'en parle pas. Il y a eu un cas qui a dérangé au ministère des Finances. Ils le savent. On n'a pas mis ça dans cette lettre-là. Il y a eu un cas. On ne doit pas gérer les choses en cherchant à protéger certaines têtes. Ce n'est pas bien. Je ne peux pas dire ça à la radio comme ça, par élégance. Mais il y a un cas, vous êtes un grand journaliste, un grand enquêteur, vous faites bien votre travail. Il y a eu un cas au ministère des Finances, entre un autre ministère et le ministère des Finances, un cadre de commandement a posé un acte de médiocrité. Mais il serait protégé quelque part. C'est pourquoi aujourd'hui, on parle d'une telle lettre. Mais quelle est la conséquence? Cette lettre-là crée une collision entre le ministre et le cadre de commandement dans question. Également, ça coupe quelque peu la collaboration, la bonne collaboration entre le premier ministre lui-même et des ministres. Mais qu'en est-il d'un gouverneur qui doit peut-être suspendre un maire de la ville? Et un maire de la ville qui voudrait suspendre un bourgmestre? Là, le Premier ministre n'a pas parlé.
Voilà, c'est pourquoi. Oui, voilà, merci beaucoup de raison. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure sous réserve des experts à l'administration. Il y a cette loi que tout le monde attend, la modification de la loi du 1981, portant statut des personnels du cadre de carrière, fonctionnaires et agents de l'État, et aussi la loi réglementant la caisse de retraite. Donc il y a beaucoup de choses qu'on attend parmi la réforme de l'administration pour permettre à ce qu'on puisse apporter quand même une bouffée d'oxygène à notre administration. Merci beaucoup, Maître Séverin et honorable PACA, député provincial de Bandundu. Vous aurez chacun une minute, comme ça on va conclure cette émission. Maître Séverin, vous êtes à Paragé. Bonjour et bienvenue dans la parole aux auditeurs.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de m'avoir accordé la parole. Sans vouloir répondre à tout ce que mes prédécesseurs ont parlé sur les sujets, à mon avis, la lettre du Premier ministre a sa raison de appeler, n'est-ce pas, ses ministres à l'ordre. Le ministre, monsieur le journaliste, ayant telle ou telle charge dans ses attributions, suspend le haut cadre sa consultation préalable de leur chef. Et quelles décisions de suspension vont être beaucoup des conséquences et des débats dans les mondes politiques, comme vous le journaliste. N'oublions pas que le Premier ministre étant les proches de l'équipe gouvernementale, doit toujours être vigilant par rapport au travail qu'effectue le ministre qui lui-même avait nommé. N'oublions pas non plus que les ministres sont les autorités politico-administratives, des codes de vie, des droits administratifs. Mais là, ils prennent des décisions sans respect de la procédure parfois, sans avoir terminé même les enquêtes. On voit démontrer soit les sanctions ou l'erreur commise par le secrétaire général ou les cadres présumés. Pas tout en affirmant simplement qu'il s'agit d'une faute lourde, ça définit cette boîte de Pandore. Voilà, à ce niveau-là, on comprend vite qu'il s'agit d'un règlement des comptes.
Merci beaucoup, Maître Séverin. Honorable PACA, bonjour et bienvenue. Honorable PACA, vous êtes député provincial dans le Bandundu-Ville. Voilà, on a le petit souci avec la ligne de l'honorable PACA par rapport à cette émission. Nous lisons juste le message de Fikiri Chomba qui dit à quoi servent les ministres. C'est tout, doit être centré sur Matata. Je pense que c'est une façon pour le Premier ministre d'encourager l'impunité. Cette mesure montre qu'il y a un problème sérieux au sein du gouvernement. Anthony Bala dit ceci, les frères battons-nous jusqu'au sacrifice suprême pour un état de droit. Frédéric Alamo, Kitsa de Goma, à Dubango, Dieudonné Démaghi, le Premier ministre a eu à réintégrer beaucoup d'innovations dans l'administration durant les 4 ans, sauf qu'il ne doit pas monopoliser cette administration, car il y a aussi la répartition des tâches dans l'administration. Pourquoi toujours lui? Voilà ma préoccupation. Lorsque quelqu'un est en erreur, il doit immédiatement et nécessairement subir la rigueur. Ça, ce sont des propos de Martin Faile Enjo. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission.
Allô? 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 Il ne répond pas?
Ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci à Dieudonné Nyangasa qui a assuré la mise en ombre de ce programme. Juste Kabungunda était au standard. Pierre Lamégi l'a réalisé. Sous la supervision de Martin Sedizangueri, cette émission vous a été présentée, coordonnée par J.R. Lungembo Luabou. On se retrouve demain dans un autre numéro.